Balade en Chine qui se poursuit en compagnie de Alexis Kouzmine-Karavaïev, donc galeriste aujourd'hui implanté à Bruxelles. Mais là, on était sur sa période shanghaïenne, donc l'époque où vous fondez IFA Gallery. Donc on est en 2007 à Shanghai, dans le quartier M50, donc où il y a la plupart des galeries d'art contemporain, peut-être pas encore autant développé qu'aujourd'hui. On était resté sur quelque chose de assez essentiel, c'est-à-dire le choix de représenter, enfin en tout cas de montrer des artistes chinois contemporains avec qui vous pouvez nouer des relations, voilà, assez étroites. Est-ce que peut-être vous avez un souvenir d'une des premières expos qui vous a particulièrement marqué, ou une anecdote autour de cette mise en place de galeries à Shanghai?
J'ai pas d'anecdote
particulière. Un artiste qui vous a la rencontre avec un artiste qui vous est cher, qui vous a marqué?
Non, mais j'ai un souvenir de mes premières expositions, à la fois des expositions individuelles de jeunes artistes, des expositions de groupe. J'avais travaillé aussi avec j'avais présenté un artiste qui est devenu très important par la suite.
Vous l'avez lancé un peu?
Lancé, bah, il était déjà exposé, mais c'était une exposition assez importante, assez à Shanghai.
C'était qui?
C'était Liu Bolin à l'époque, donc maintenant qui est devenu, enfin qui a aussi une notoriété assez importante à Paris. J'ai pas développé pour différentes raisons cette représentation, mais c'était une exposition qui était importante. J'avais une très belle exposition aussi, alors ça c'était avant, mais que j'ai beaucoup aimé, qui était une exposition j'avais travaillé avec une autre galerie coréenne d'un artiste coréen qui s'appelle Park Sun-tae, qui était une exposition magique dans la galerie, parce que justement on avait beaucoup utilisé ces volumes en recréant une salle où il y avait une salle noire avec des lumières noires et
des lumières noires, c'est intéressant.
Des lumières noires, vous savez, les lumières violettes comme ça qui permet de mettre un peu en lumière d'autres couleurs et donc on avait créé tout un univers comme ça, et puis aussi il y a les découvertes d'artistes avec qui je continue à travailler que j'aime beaucoup, notamment Da Guangyu, que j'ai exposé cette année à la fois au Grand Palais pendant le salon Art Paris, mais aussi à la galerie Wu Junyong, j'ai exposé une de ses vidéos à l'époque. Il m'a été conseillé par un des grands artistes vidéastes chinois qui s'appelle Zhang Peili, et Wu Junyong a aussi son propre univers, surtout dans les animations vidéo, mais plus uniquement, il travaille sur beaucoup d'autres techniques. Et donc j'exposais aussi à Bruxelles, c'était ma première exposition à Bruxelles l'année dernière. Et donc il y a toutes ces j'ai pas une anecdote très particulière, mais il y a eu quand même des découvertes qui étaient des expériences, des découvertes que j'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé aussi avec les Gao Brothers, qui sont des artistes très particuliers, qui sont plus âgés, qui ont eu beaucoup de problèmes avec leur gouvernement, mais qui ont toujours voulu rester chinois, même s'ils ont eu des problèmes pour avoir un passeport. Enfin, il y a toutes ces petites anecdotes qui ont fait que j'ai créé des relations avec des artistes que je continue à côtoyer, avec qui j'ai des très, très bonnes relations, et c'est ce qui continue. Ça me fait plaisir justement d'avoir ça, de développer toujours ces.
Ces artistes, donc aujourd'hui, ils travaillent en Chine ou ils sont à l'extérieur de la Chine? Est-ce que justement ce rapport aussi au gouvernement, qui a pu peut-être être au début assez compliqué dans le cadre de l'art contemporain de certains artistes chinois, est-ce que ça s'améliore? Donc, est-ce qu'ils peuvent retourner travailler en Chine ou...
Mais tous les artistes avec qui je travaille, enfin, justement pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est tous les artistes travaillent en Chine.
D'accord.
Et enfin,
d'accord.
À l'heure actuelle, tous les artistes avec qui je travaille, ça va peut-être évoluer maintenant avec mon implantation en Europe, mais tous les artistes à l'heure actuelle avec qui je collabore, avec qui je fais des expositions, sont des artistes qui résident en Chine. Et donc j'ai dont les Chinois. Donc certains ont eu quelques problèmes, mais ils sont encore en Chine et tout ça.
Comment ils vivent ces gens-là? Le gouvernement met en place des bourses? Est-ce qu'il y a des aides? Justement, nous, on s'est rencontrés à une présentation d'un livre de Catherine Becker, La Marque Rouge. On avait évoqué le mécénat. Est-ce que ça existe en Chine? Comment ils font pour vivre?
Alors, il n'y a pas de bourse. Le statut d'artiste n'est pas un statut qui est reconnu comme on le reconnaît ici en Europe, ou enfin même dans un monde occidental, aux États-Unis.
En Occident aussi, c'est pas évident d'être artiste.
Non, j'ai pas dit que c'était évident, mais il y a plus de facilité à s'implanter. Je parlais avec une artiste il y a pas longtemps, qui est une artiste américaine qui était en Chine. Lorsqu'elle était en Chine pour avoir son visa, elle disait pas qu'elle était artiste. En revanche, maintenant elle s'est installée à Berlin. Être artiste, ça l'aidait justement à avoir
des portes qui s'ouvraient plus facilement,
d'avoir son visa. C'était plus facile d'avoir son visa pour s'installer en Europe. Si on se débrouille, on peut avoir quelques bourses aussi en tant qu'artiste. Être artiste, c'est un métier difficile, ou que ce soit. C'est une activité qui est difficile. Mm-hmm. C'est financièrement, et puis même, ça demande beaucoup, il y a beaucoup de contraintes.
Il faut avoir de la place.
C'est des problèmes immobiliers. Il y a eu des articles dessus, justement, parce qu'il y a à Paris, parce que la scène artistique se développe, mais le problème, c'est que les artistes ne s'installent pas ici, parce que ça coûte cher.
D'ailleurs, j'ai une anecdote récente, effectivement, d'un sculpteur qui va venir en Belgique.
Oui, beaucoup d'artistes s'installent en Belgique.
C'est plus, je sais pas, je crois que ça doit être moins cher de trouver des gros espaces pour travailler.
L'immobilier est beaucoup moins cher en Belgique qu'il ne l'est ici, enfin à Bruxelles qu'il ne l'est à Paris, pour plutôt comparer les villes, et qu'il ne l'est aussi à Londres. Peut-être que le projet du Grand Paris va un petit peu changer la donne ici, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup développé ici depuis une dizaine. Enfin, il y a eu quelques creux, mais depuis que le marché de l'art aussi reprend, parce qu'avant il y avait un monopole des commissaires-priseurs, mais depuis que le marché de l'art reprend, et puis aussi depuis que la FIAC se rehausse sur la scène, qui redevient une foire, la deuxième foire la plus importante
en art contemporain.
En art contemporain. Il y a eu des changements. Il y a eu cette ouverture de la Fondation Louis Vuitton. Il y a eu à l'Hôtel de la Monnaie. Il y a des grosses institutions. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Il y a peu de villes qui peuvent se targuer d'avoir une telle scène artistique. Mais c'est vrai que les artistes ont beaucoup de mal à s'installer du prix de l'immobilier. Et ils sont beaucoup installés à Berlin, et maintenant aussi à Bruxelles, qui a la particularité d'avoir quand même un grand nombre de collectionneurs autour, et aussi d'avoir il y a beaucoup collectionné en Belgique, enfin toujours été fait partie, enfin
de la culture
locale. Et il y a aussi la particularité d'être géographiquement un peu
d'être au centre,
un peu mieux placé que Berlin, qui est assez loin. C'est vrai qu'il y a maintenant, justement, il y a cet engouement vers Bruxelles, et les artistes s'installent et ils peuvent trouver des ateliers qui sont plus confortables, plus grands, à des prix beaucoup moins chers que ce qu'ils peuvent trouver à Paris. C'est le problème à Paris maintenant, c'est d'avoir justement des ateliers de taille agréable pour travailler.
Et alors vous, vous vendiez beaucoup quand vous faisiez, enfin j'imagine que le but premier des expositions que vous faisiez, c'était surtout de montrer l'œuvre, mais est-ce que les gens achetaient ces œuvres? Est-ce que c'était plutôt des Chinois ou plutôt des expatriés qui vivaient à Shanghai qui achetaient ces œuvres?
Oui, on a, enfin heureusement on a eu des ventes, mais sinon je ne serais pas.
Vous viviez comme ça vous?
Oui, bien sûr.
La galerie vivait sur les ventes des tableaux.
Donc heureusement c'était pas toujours évident, c'était pas très facile parce que mais c'est une scène, un marché. En fait, on a beaucoup surfé au début sur une vague qui a eu lieu à peu près en 2007 d'un engouement envers l'art contemporain chinois.
Ça vient d'où, ça?
Elle est partie d'une... je pense qu'on peut dire qu'elle est partie de là. Et elle est partie d'une vente de Sotheby's à New York où les prix se sont envolés. Lors d'une vente là-bas.
Vente de quel
D'art contemporain chinois.
Et donc, de quel artiste
Il y avait plusieurs artistes d'art contemporain chinois. Et puis parallèlement, on a vu quand même cet aspect un peu spéculatif. Et donc il y a beaucoup de collectionneurs occidentaux du coup qui sont intéressés à l'art contemporain chinois. Il y en a qui commençaient en plus à voyager pour les affaires. Enfin, il y en a qui voyagent, et donc ils s'intéressaient. M50, où nous étions, se densifie de galeries, d'espaces, plus ou moins bien. Donc, il y avait des marchands qui faisaient des copies d'artistes. C'était un peu une anarchie.
Il y avait des galeries chinoises aussi.
Il y avait des galeries chinoises. Il y a eu des galeries chinoises. Il y avait des galeries occidentales, il y avait des artistes qui se vendaient à des prix complètement fous alors qu'ils venaient juste d'être diplômés. Mmh. Il y avait beaucoup ces artistes qui venaient de l'académie du Sichuan qui était où était Zhang Xiaogang notamment et d'autres.
Qui a une bonne réputation.
Ouais, qui est un des artistes les plus chers en Chine et qui depuis plusieurs années. Et donc il y a eu une espèce de vague où les marchands, les artistes ont surfé dessus, mais c'était ridicule. Enfin même si j'en ai bénéficié, hein, je vous le cache pas, de certaines ventes, il y a des collectionneurs qui venaient, notamment à Mogenshan, à M50. Et il y avait Shanghard qui était là aussi, donc qui était un peu aussi la star de, qui était la galerie, une galerie très réputée là-bas. Et puis ils arrivaient, ils achetaient très facilement. Et donc on bénéficiait un peu de ça. Et parallèlement à ça aussi, le marché de l'immobilier s'est un peu stabilisé en Chine. Et donc les spéculateurs chinois se sont retournés vers le marché boursier qui était inexistant quasiment avant 2007. Si on retourne en 2006, la bourse de Shanghai ne valait rien. Hong Kong, je sépare beaucoup, c'est très différent reste de la Chine. Ouais. Mais Shenzhen était un peu plus important, la bourse de Shenzhen, et puis il y avait la bourse de Shanghai. Et donc maintenant la bourse de Shanghai est quand même maintenant c'est un indice important.
Ouais. Du coup, ils investissaient dans le marché de l'art. Il y avait ces
investissements sur le marché boursier et puis sur le marché de l'art. C'était surtout en second marché. Le second marché, donc en salle de vente.
Qu'est-ce que c'est exactement je connais le marché secondaire en finance.
C'est-à-dire que c'était en salle de vente, que c'était ce qu'on connaît, nous, surtout ici, Christie's, Sotheby's, qui sont les majeurs. Il y a eu aussi, avant en France, justement, il y avait ce monopole des commissaires-priseurs avec plein d'études, Cornet de Saint-Cyr, Tajan, enfin bref, qui sont après, il y en a qui sont groupés pour faire Arcurial. Enfin, c'est second marché, c'est des ventes qui ont déjà été dans des collections.
D'accord.
Parfois, les artistes le mettent directement, mais qui sont vendus pour diverses raisons et parfois par pure raison spéculative, mais c'est donc ils sont vendus en salle. Et donc il y a eu ces créations de maisons de vente aussi en Chine, et maintenant la troisième ou quatrième maison de vente au monde est chinoise. Elle a été créée en 2006 en Chine.
D'accord.
Poly Auction, qui appartient à Poly Group.
D'accord.
Et puis la suivante est Guardian, qui est aussi une maison de vente chinoise. Et il y en a quelques autres chinoises aussi dans le top 10. Donc c'était vraiment, il y a eu vraiment, pas seulement sur l'art contemporain, mais aussi sur l'art contemporain, vraiment En 2007-2008, on était vraiment, il y a eu beaucoup d'achats-ventes qui ont fait gonfler les prix. Mmh. Et il y a beaucoup de prix. Mais les acheteurs, plus que des collectionneurs, achetaient surtout en salle ou sinon dans les studios d'artistes. Le métier, la galerie était encore un monde à part qui était. Il n'y avait pas cette confiance forcément entre un galeriste et un acheteur ou un collectionneur qui sont venus un peu plus sur la scène artistique, sur le marché.
D'accord, donc ils avaient au début plus confiance dans l'artiste directement.
Oui, non, mais il y avait beaucoup cet aspect de je me souviendrai, on m'avait parlé d'un interview d'une femme qui disait qu'elle achetait et qu'elle vendait les œuvres. Et puis bon, si elle ne vend pas tout de suite, elle accroche ça dans son salon, ça fait joli. C'est peut-être un petit peu exagéré, enfin, oui, pas généraliser sur cette interview, mais il y avait quand même, c'était un peu l'état d'esprit qu'il y avait à un moment donné.
D'accord. Je vous propose de se retrouver pour la suite de cette conversation autour de un peu la raison pour laquelle vous avez décidé au bout de pratiquement 6 ans, donc vous êtes implanté en 2007 à Shanghai.
Je suis implanté en 2003,
en 2013,
10 ans.
D'accord, donc, mais IFA Galerie, c'était 2007, c'est
ouais,
ça? D'accord. Et donc on va voir pourquoi effectivement vous décidez d'ouvrir cette antenne principale à Bruxelles et du coup toujours garder une activité sur Shanghai mais plus en mode showcase que vraiment galerie permanente, c'est ça?
À Shanghai?
Oui.
Oui. Ou pour l'instant, on verra.
D'accord.
Mais oui. J'ai en fait décidé. C'était en 2013. C'était juste après. Donc j'ai gardé cette information un peu confidentielle. C'était juste après ma participation à Art Basel Hong Kong. De m'installer en Europe pour diverses raisons. J'étais resté à Shanghai depuis 10 ans, c'est pour ça aussi que j'avais appelé. Personnellement aussi, c'est important.
C'était une étape. Je vous propose d'en parler en début de semaine prochaine.
D'accord.
Voilà, donc pour voir comment vous continuez à développer tout ça.
Très
effectivement
bien.
En Europe. Merci.
Je vous en prie.